Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Comme d'habitude, on remercie la microbrasserie Les Grands Bois qui nous fournissent leurs excellentes bières. Un merci tout spécial à Cuisinic aussi. Si vous cherchez un ébéniste pour un projet chez vous, regardez ce qu'ils font sur Facebook et Instagram. C'est complètement fou dans le caillou. Et cette semaine, on reçoit un invité. On est toujours à distance, mais on est avec Marc-André Roy du balado des Dangereux. Et vous l'aurez compris, c'est pour parler du célèbre flop québécois, Les Dangereux. Bienvenue dans le cabanon, mais pas tant dans le cabanon que ça. On est chacun chez nous.
Encore.
Ça roule, messieurs?
Mais oui.
Yes.
Ouais, aujourd'hui, on parle des Dangereux, film qu'on s'est fait suggérer à plusieurs reprises dans le cabanon depuis le début de l'aventure. Puis on fait pas ça seul, on reçoit un expert en la matière, Marc-André Roy, animateur du balado des Dangereux.
Salut la gang!
Content que tu sois là.
Hey, ben moi aussi. C'est un honneur, on va se le dire.
Pareillement, ton podcast est excellent, puis on aura l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, pour les gens qui savent peut-être pas c'est quoi le balado des Dangereux, vas-y donc de ton explication.
Ben, le balado des Dangereux, c'est moi qui invite des gens qui ont participé de près ou de loin au film Les Dangereux. Et non seulement je leur demande pourquoi, mais on essaie aussi de se distancer aussi du phénomène dangereux et de parler du monde du show business, puis élargir la discussion aussi. Parce que si c'était juste des dangereux, ça durerait un 15-20 minutes gros top, puis on apprend plein de choses sur le milieu en plus.
Louis m'a demandé si ça me tentait de participer à ce film-là. Alors, il m'envoie le scénario. Je reçois le scénario. J'ai trouvé ça intéressant, différent. Il y avait comme un ton nouveau là-dedans qui s'apparentait beaucoup, je trouvais, à certaines comédies anglaises. Ça m'a plu. Ça m'a plu à moi, mais ça a plu également à beaucoup d'autres, puisque la distribution dans ce film-là était assez imposante. Il y avait de gros noms.
C'est palpitant, je dois le dire. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'en entendre parler. C'est vraiment passionnant. Puis pour les gens qui n'ont pas écouté Les Dangereux là, dans la dernière semaine, ça reste très intéressant. Moi, je ne l'avais pas écouté depuis 2003, puis je me suis clenché tous les épisodes du podcast Back à Back et j'ai adoré ça.
Moi, il m'en reste un et demi, puis j'ai terminé.
Ah, c'est vraiment bon.
Je le dévore.
Là, c'est... En fait, c'est... moi, j'ai vraiment aimé le langue que tu donnes tes entrevues. Où, tu sais, c'est comme toi, là, tu l'as vécu comment. Tu sais? On s'en fout comment que c'est sorti. Toi, tu l'as vécu comment, puis ça nous permet de découvrir des trucs quand même vraiment intéressants, puis t'es vraiment bon pour faire des entrevues.
Puis honnêtement, je pensais que ce podcast-là allait faire un épisode gros top. Moi, que je l'ai déjà dit dans mon podcast, si Véro m'avait pas dit oui à la vente de garage des artistes, ce podcast-là aurait jamais eu lieu. Puis elle me dit oui, puis après ça, ça a juste déboulé, puis je suis vraiment heureux d'avoir atteint le cap des 10 épisodes. Je pensais en faire gros top comme j'ai dit. Un seul, puis les autres allaient comme faire non. Mais au début, ça a été comme super difficile de trouver des gens parce qu'ils pensaient que, dans le fond, ce podcast-là allait être un dîner de cons, que j'allais me moquer, puis j'allais comme dire « Ah, t'es tombé poche d'avoir fait ce film-là ». Mais, tu sais, moi, ce film-là représente tellement beaucoup dans ma vie. Je pense que les objets en arrière le démontrent que c'est vraiment pas... C'est tout sauf un dîner de con que je veux faire.
On parle ici là, du prix Nobel de la motivation. Là. Je pense que c'est toi qui l'emporte.
Ah ouais, pourquoi? Ah,
ben parce que tabarouette, faut être motivé là, pour pousser sa passion à ce point-là. Ah, mais ça, c'est dangereux.
Ça se fait naturellement.
Moi, j'adore que ce running gag ne meure jamais.
Mon but, ce serait que ce film-là devienne culte.
Oui,
honnêtement, là, ben, un peu comme le Rocky Horror Picture Show.
Oui.
Le monde se déguise en leur personnage préféré.
On fait des soirées, malade. Les gens se déguisent, puis là, ils disent les répliques.
Puis quand tu dis ça représente beaucoup dans ta vie, est-ce que c'est depuis la sortie du film ou c'est venu sur le tard, cet intérêt marqué-là?
Non. c'est, ça fait pas si longtemps que ça. C'est okay. dans le bout où est-ce que j'emménageais à Montréal. À un moment donné, il m'a comme pogné l'envie de réécouter la toune des Dangereux. Je tripais vraiment sur la balade des dangereux, OK? No judgment at all, OK? Fait que...
Non, c'est correct.
Puis il l'avait pas sur Internet, fait que je me suis fait venir le CD d'un gars de l'île du Prince-Édouard, ou une affaire de même, en tout cas. Mm. Puis là, j'étais comme... Dans le fond, moi, je trippais juste sur la toune à la base. Et là, les gens autour de moi étaient comme, « Ah, tu trippes, c'est dangereux. » Puis je suis comme, « Non, je trippe pas, c'est dangereux. » Puis plus j'insistais pour dire que je trippais pas, c'est dangereux, plus les gens étaient intenses sur dire que je trippais, c'est dangereux. Puis à un moment donné, j'ai fait « Fuck it. » Je vais être le plus grand fan des dangereux que tu auras jamais vu dans ta sainte chienne de vie.
Dans ma collection, comme on peut le voir, j'ai 2, 4, 6, 7 pièces de collection. Puis il m'en manque encore des trucs que j'aimerais avoir. Mais la chose dont je suis le plus fier en ce moment, c'est ma copie brésilienne du film Les Dangereux, qu'on peut voir sur le présentoir. Qui est selon moi cette pochette-là est possiblement la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie.
Ça a commencé là et maintenant, il se passe pas une journée sans que je ne pense pas aux dangereux pour vrai.
Oh, cool!
À tous les jours.
C'est malade.
Très cool. On va se dire, la toune, elle catchy. Elle reste dans la tête pas mal.
C'est l'enfer, comment ça reste pogné dans la tête. Ouais. Ça n'a pas
c'était
de sens.
Cœur, hein, là. Puis en plus, t'es même pas supposé être Véro à la base qui jouait ça, là. Dans leur tête, ils voyaient genre Caroline Néron.
Wildcat. Mon vrai nom est Jessica. J'aime mieux vous dire la vérité.
Je préfère Wildcat.
Wildcat. La fraîcheur nature.
Ils voulaient aussi la toune Allumer le feu de Johnny Hallyday, mais ils n'ont pas réussi à avoir les droits. Fait que c'est quand même écœurant, là. Fait qu'ils ont demandé à Stéphane Dufour avec Isabelle Villeneuve de composer une chanson, puis ça a été La balade des dangereux, puis aussi Plus haut que moi, qu'on oublie souvent aussi, mais qui était une excellente power ballade.
C'est vrai. Tu parles d'allumer le feu. Il y a une certaine personne qui a repris cette toune-là dans un karaoké, dans un mariage. Le je sais pas si on peut dire encore ce mot-là, mais le nain dans Fort Boyard ou la petite personne dans Fort Boyard.
Ah, Passe-Partout!
Oui, ouais, Passe-Partout.
Ça fait comme ça.
Ouais, en France, c'était Passe-Partout qui n'a rien à voir avec notre Passe-Partout à nous autres.
Il suffira d'une étincelle d'amour.
Vous souvenez-vous de la sortie de ce film-là? Moi, je me souviens quand même assez bien du marketing démesuré, justement, du trio chez Subway, puis de la pub. Je me souviens quand ce film-là est arrivé, à quel point c'était gros, puis aussi à quel point c'est vite sombré dans l'oubli. Je sais pas vous autres, Joël, j'en garde.
Je me souviens des pubs, je me souviens que c'était big avec Subway, mais j'étais pas allé le voir au cinéma, j'avais pas d'intérêt, je pense, à aller le voir. Mais tu sais, j'ai eu de l'intérêt quand j'ai vu qu'il y avait des mauvaises critiques. Ah, je veux voir ça, ça a l'air que c'est le pire film jamais fait, puis ce qui est pas le cas, là, mais tu sais, je l'ai écouté avec une mauvaise intention. Là. Regarde, ça va être poche. Fait qu'on dirait que quand t'es mindé, écouter un film qui va être poche, tu veux, c'était le
comme... pitch. Comme 90% des films que t'écoutes, Joël.
Comme les films qu'on écoute dans le cabanon.
Ouais, ben moi, je suis un peu comme Joël. Moi, en fait, je me souviens très bien du marketing avec Subway.
À gauche! À gauche, là, à gauche! Tirez une gauche! Continuez, toi aussi, à ville, on mangera pas beaucoup aujourd'hui! Manger autre chose que des trios dangereux, ça est triste! Attention!
À l'achat de trio Subway Les Dangereux, obtenez un verre litigé du film Les Dangereux et courez la chance de gagner un grand prix de 10 000 $ et de nombreux autres prix, dont les récompenses pour le film.
Ah!
là, en réécoutant le film, tu sais, là, les nouveaux placements de produits, mettons, de l'eau, tout ça, ça, je m'en souvenais pas, par exemple. Puis probablement parce que j'étais en âge ou que, mettons, je consommais pas de bière. Fait que pour moi, ça devait passer comme super vite. Puis moi, les gars, étonnamment, quand j'avais écouté le film, moi, je l'avais aimé. Parce que j'en garde tout. Oui, oui, j'en garde tout. Ou presque. Ouais, puis ben là, on va en parler plus loin. Peut-être que mon avis a changé, peut-être que non, là, avec la réécoute en tant que qu'adulte, là, mais j'en gardais vraiment de très bons souvenirs.
Moi, je vais faire une supposition de suite. Là. Je pense que tu l'as aimé, puis tu vas être celui qui va donner la note la plus forte.
C'est ce que je pense aussi.
Dans le positif.
Je pense aussi que je vais dans le plus fort.
Puis il y a un truc aussi, j'aimerais ça qu'on s'en souvienne vers la fin de l'épisode, ça a souvent été comme mis côte à côte avec Angelo Fredo Romeo qui est sorti une couple d'années avant comme étant possiblement le pire film québécois. On a vu les deux, c'était notre épisode de la Saint-Jean de l'an passé, Angelo Fredo Romeo, fait qu'on y reviendra sur la comparaison entre les deux peut-être. Ouais. Ça s'appelle Les Dangereux au Québec, Les Déjantés en France, Dangerous People en anglais. Quand on dit en anglais, sais-tu si c'est sorti aux États-Unis ou seulement au Canada anglais?
Je sais qu'il y a eu ils ont signé un genre de contrat de distribution à l'international avec la compagnie, je pense, Cinevault, qui n'existe plus, une compagnie basée à Toronto. Puis ils ont été distribués dans plus de 17 pays à travers le monde. Donc là, t'as Dangerous People. J'ai aussi, attends un peu, je l'ai là, deux secondes. J'ai comme ici version grecque, qui est comme tu vois dans le bas, là.
T'es-tu capable de nous dire c'est quoi le titre?
Ah mon Dieu, t'es-tu malade? Mais mon préféré, c'est une pièce de collection. C'est possiblement genre le plus beau branding du film Les Dangereux.
Oh shit.
Boy.
Ouais, la version portugaise du film.
Hey, c'est donc même badass!
Hey, écoute, moi, je veux ce poster-là, c'est ça, je veux
ben
ça.
Oui.
Hey. C'est quoi cette face-là, Stéphane Rousseau? Il est dans ma l'air, on dirait que c'est même pas lui.
Il n'y a jamais un gun dans le film. Il n'y a jamais de gun dans le film.
Il y en a un tu sais, qui tire des balles à blanc, mais c'est même pas ce modèle-là. C'est le
plus... Non. Mais attends, il y a quelque chose de quand même très drôle aussi. Quand tu prends ta pochette française, tu vois Stéphane Rousseau de
Ah, c'est très français. Ouais.
De un, c'est juste Stéphane Rousseau et l'autre vedette qu'ils mettent dedans, c'est Louise Portal, comme les vedettes principales du film, tu sais. Parce que eux, il y avait une carrière très importante en France. Mais quand
tu l'avais fait en France à l'époque, Louise Portal, sais-tu?
Hey, je le sais pas. Le sais pas pour vrai. Puis quand tu regardes ici, il y a comme le gun.
Ouais.
C'est le gun ici. Ils ont comme pris le gun de Pierre Lebeau et Didier Lucien qui ont photoshopé.
Ben ouais.
Oh shit!
C'est quand même pas pire, là.
Ouais, ils sont forts, ces Français.
Puis quand tu regardes aussi, là, je m'excuse, peut-être que je m'emballe, là.
Mais non, vas-y.
On est là pour ça. La pochette. Quand tu regardes aussi la pochette, ça ressemble beaucoup à la pochette de Snatch. Mm-hmm. Genre, mais vraiment beaucoup, là. Puis justement, quand ils ont fait le film, il y avait ça en tête. Il y avait tous les films de Guy Ritchie, là. En tête quand ils ont fait ça.
Ouais, puis on le sent, là. Il y a des bouts très Guy Ritchie dans le montage, dans la présentation de personnages, puis tout, là. C'est vrai que c'est.
Ouais, qu'on. Les scènes sont scindées en deux, comme il y a une phrase qui se dit, une autre scène, une phrase, on revient à l'autre scène d'après.
C'est ouais,
très,
c'est ça.
Du montage dynamique, comme ça fait très Snatch.
Ouais. Mm-hmm.
En sachant, j'ai remarqué, là.
Lui, c'est Régis Dubois. Mais tout le monde l'appelle. Boiteuse.
Le film est décrit comme étant une comédie policière à plusieurs places. Moi, j'aurais envie de dire que c'est une comédie d'action parce qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue policière dans tout ça. Il n'y a pas de
police.
Il n'y a pas de police du tout.
C'est ça. Il y a Mario Lirette en gardien de stationnement. Là, c'est pas mal la police du film. C'est un film d'une durée d'1h47. Moi, honnêtement, je pense que si je l'avais écouté sans faire pause à tout bout de champ pour prendre des notes, j'aurais trouvé que c'est un 1h47 qui file comme un 1h47. Étrangement, parce qu'habituellement, que les films qu'on écoute dans le cabanon, c'est des 1h15 qui file comme des 4h15, mettons. Fait que, ouais. Non, ça se passait bien du côté des dangereux. Et le
synopsis... Moi, je
Vas-y, je suis d'accord avec. Bon, moi, j'ai trouvé long, là. Mais moi aussi, je prenais des notes. Je m'étais supposé, mais.
Ouais.
J'aurais pu couper un bon 15 minutes.
Mais c'est possiblement le film sur lequel on va avoir le plus les opinions qui divergent.
Bon, oui.
Moi, Joël. Et le synopsis, selon Mediafilm, je suis allé avec celui de Mediafilm parce que les autres étaient affreusement longs pour rien.
Oui.
Là, c'est une phrase, ça tient en une phrase. Un comptable naïf est chargé d'aller porter une importante rançon au ravisseur d'une populaire chanteuse.
C'est ça.
Ouais,
c'est comment ça? Ça, c'est une des 26 000 intrigues du film.
Exactement. Puis, avant de poursuivre, j'aimerais ça qu'on regarde la bande-annonce.
Moi, je suis les productions Paul Labelle. Ma fille, c'est Roxane. Ma fille est chanteuse. Je suis son gérant. Puis nous deux, on s'en va dans le sky.
Oh, my God! Oh, my God! C'est incroyable! J'ai juste un mot qui me vient à l'esprit. C'est unexpected. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas.
Le gros problème, c'est que Roxane, elle s'est faite kidnapper.
Oh, c'est ça! D'ailleurs,
rate-moi là.
Bonjour. Francis Jobin, comptable, porteur de rançon. Ouais, mais ça, c'est pour la fille de mon boss.
Monsieur Labelle, je peux vous appeler Paul?
Non.
Je vais m'asseoir dessus.
Non, non, non. Des méchants, il y en a partout. Oui. C'est une gang de fous.
Mais qu'est-ce que tu fais là?
Le monde me tire dessus. Avec des vrais guns, des vraies balles, tout.
Oh, shit.
Hey! Il y a un trou! Il y avait pas ça tantôt! Il y avait pas un trou tout à l'heure! C'est une gang de fous.
Tiens en route, oui. OK?
C'est qui, là?
Qu'est-ce
que tu fais?
Hé, hey, mon minou. Hé, faut pas que t'aies.
En plus, je m'occupe de mon frère. Mon frère est dépressif. Quand il essaie pas de se suicider, il essaie de se pendre.
Qui toi?
En tout cas, j'espère que ça finit bien, ce film-là. Pour moi, en tout cas.
Your bag usagé.
C'est vraiment l'une des bandes-annonces les plus anticlimax que j'ai vues de toute ma vie.
Mais on c'est voit juste... rien. On voit rien dans la bande-annonce. C'est juste quelqu'un qui parle. C'est même pas le personnage principal. C'est Marc Messier, tu sais.
Oui, il y a Stéphane Rousseau aussi.
Oui, il y a Stéphane Rousseau aussi, mais c'est. Mais oui, quand même. Mais tu sais, Marc Messier qui part, la bande-annonce, c'est comme pourquoi?
Ouais, parce qu'il est connu, c'est pas mal.
Ouais,
ça.
Peut-être.
On, c'est une vedette des boys.
Quand ça va bien, ça va bien.
De mémoire, est-ce qu'il y avait une autre bande-annonce qui existait de ça ou c'est vraiment celle qui était sur le DVD? C'est ce qu'on voyait à la télé, mettons?
Ben, c'est celle qui est sur le DVD. Moi, de mémoire, j'en connais aucune autre que celle-là.
J'ai rien vu d'autre, moi non plus. Fait qu'on
le fameux DVD, le DVD qui part avec une belle pub de Subway. Ça m'avait marqué quand j'avais loué dans le temps. Hey boy!
C'est ça va loin.
Dyke Jarin, non.
Ah, OK. Parfait.
Mais je pense que tous les films de Louis Saya partent avec une pub de Subway. Genre, si on prend les boys jusqu'au troisième, ça part avec une pub de Subway, me semble.
Pas plus les Pringles au début.
Ah, des... peut-être, mais il me semble
que c'est le logo, là, le logo des Pringles en gros, en partant le film. Là.
On dirait quand c'est clair et que c'est assumé, que c'est juste « voici le film est présenté par », on dirait que c'est, ça passe mieux que juste la batte bleue dans le fond du show. Tu sais.
Parce que toi, t'avais encore un doute avec la batte bleue?
Non.
C'est comme, ils savent-tu ce qui est écrit la batte bleue partout?
Non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est juste, on est supposé de pas s'en rendre compte? On est supposé
d'être... Tu vois, je pense qu'on en a déjà parlé, mais moi, ce genre de truc-là, ça me dérange vraiment pas si ça permet à des créateurs de créer.
Ben, j'ai la même opinion aussi. Je trouve qu'au Québec, on a tellement peur de faire comme les Américains que j'ai l'impression qu'on se barre plein de choses. Et non seulement avec les placements de produits, mais aussi les produits dérivés. Nommez-moi les produits dérivés de films québécois ou de séries québécoises. Il n'y en a pas. Et pourtant, ça pourrait être un excellent moyen de renflouer les coffres des productions, mais on pense zéro à ça, là.
Des Funko Pop de Virginie. ça serait malade. Un petit Funko Pop de Marcel Leboeuf puis de Hercule.
Oh wow!
Des Funko Pop de Urgence.
Ouais, c'est ça que j'allais dire.
Urgence.
C'est un film qui est réalisé par Louis Saya, bien connu dans le paysage de la comédie québécoise, tant au cinéma qu'à la télé et qu'au théâtre. On lui doit, entre autres, Les Boys 1, 2, 3, ainsi que quelques épisodes de la série. Toujours au cinéma, Le Sphinx, ça c'est venu avant Les Boys, de mémoire. À la télé, Radio Enfer, Histoire de filles, Max Inc. Et sur scène, il est co-auteur de Brou et Les Voisins avec Claude Meunier. Appelez-moi Stéphane aussi. J'en passe beaucoup, mais pour faire une histoire courte, c'est un homme avec une carrière assez remarquable. Pour moi qui est fan de comédie, c'est au Québec possiblement la personne qui a le plus gros background en comédie à l'écran. Mm-hmm. Marc-André, j'aimerais ça savoir pourquoi Louis Saya ne se retrouve pas parmi la liste des invités du balado des dangereux.
Ah mon Dieu, mais j'essaie. Tu veux la véritable raison? J'ai essayé d'entrer en contact avec lui et d'autres vedettes du film font partie de la même agence.
OK.
Et quand j'ai écrit la première fois pour parler de mon projet, on m'a barré complètement. Et quand je dis barré, on a bloqué mon courriel. Donc, quand j'envoyais un courriel, on me disait qu'il ne s'était pas rendu parce qu'il avait été bloqué par le serveur.
Je savais même pas que ça se pouvait.
Oui.
Donc, je suis incapable d'entrer en contact avec plusieurs des vedettes justement à cause d'une agence. Mais pour vrai, j'ai l'impression qu'ils ont juste pas écouté et ils n'ont pas compris c'était quoi le principe de mon podcast.
Ils doivent penser que tu veux rire d'eux autres.
Mais c'est pas le cas.
Puis peut-être que Louis Saya, peut-être qu'il veut oublier ça, peut-être qu'il est amer par rapport à ce film-là, puis il est pas à l'aise, parce que c'est quand même son nom qui est là-dessus. Tu sais, c'est lui le gros nom, le nom principal, c'est lui qui signe le film.
Personne n'avait aucun. Même les techniciens, autant que moi, on n'avait jamais eu à faire autant de cascades ou de choses particulières comme ça par jour. C'était pas une chose, c'était des fois deux, trois par jour. Et il y en avait rarement moins qu'une par jour. Alors que dans un film québécois normal, mettons, t'en as trois par film à peu près.
Plus j'avance, au départ, mon podcast c'était seulement de parler des dangereux, mais je me suis rendu compte que c'est juste une discussion sur le cinéma québécois. C'est juste ça, mon podcast. Puis, tu sais, d'ailleurs, le cinéma québécois, comme tu peux voir, je sais pas si tu remarques, là, tous les films que tu vois là, ici, hop, 530 films québécois en DVD.
Fait que, c'est vrai, oui.
Est-ce que tu as des originaux?
T'as-tu une copie physique de Angelo, Fredo et Romeo?
En VHS, oui.
Ouais, OK.
Je pense pas qu'elle existe autrement, honnêtement.
Non, je partirais une campagne de financement pour qu'il l'ait en DVD, ce serait écœurant. Ou au moins sur Elephant, ce serait écœurant d'avoir sur Elephant, Angelo, Fredo et Romeo.
Super beau transfert, ça serait le fun. Je sais pas si tu as la même VHS que nous, on a trouvé, mais la nôtre, il est écrit que c'est comme une copie promotionnelle, puis il faut absolument pas dupliquer ça.
Quoi? Vous avez une copie promotionnelle? Wow! Ouais, ouais.
J'ai trouvé mon héros qui répond au nom de Wonton, comme la soupe.
C'est écrit par Sylvain Raté et Huguette Saint-Denis, qui était, ben, on va le dire, à l'époque, Stéphane Saint-Denis. Oui. Pour en revenir à ton podcast, Marc-André, l'épisode d'Huguette Saint-Denis, c'est un des must. C'est le premier épisode que j'ai conseillé au gars, je pense. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. Puis c'est peut-être l'invité qui avait le plus d'amertume par rapport à cette aventure-là. Peut-être que je me trompe.
Ben oui. Moi, quand je l'ai contacté à l'époque, l'été passé, elle était pas trop sûre de vouloir embarquer. Puis après ça, elle a dit « Je vais le faire, mais je vais le faire juste une fois. » Parfait. Elle dit, je vais me vider le cœur, puis tout ça. Puis,
c'est cool, ça.
Puis moi, je l'ai pris comme elle est venue, là. C'est-à-dire, je l'ai pas censurée, je suis allé où est-ce qu'elle voulait aller, puis elle m'a dit ce qu'elle avait à dire sur le film, là.
Je suis encore aujourd'hui, je suis encore blessé, je suis encore frustré du traitement qu'on a eu, les auteurs, du traitement que Stéphane Rousseau et Véronique Cloutier, qui avaient des tribunes, nous ont réservées. Je suis encore blessé par ça. Je peux pas dire que je leur en veux encore parce que pourquoi j'en voudrais à quelqu'un qui sait même pas mon nom, tu sais. Je suis sûr qu'il se souvient même pas de mon nom. Fait que, mais ça a été le fun. Ça a été beau, tu sais. Moi, le souvenir que j'ai, c'est que c'était le fun parce que j'amenais ma famille puis ils rencontraient des vedettes puis ils voyaient des choses puis dans leurs yeux, j'étais grand. C'était à peu près la seule place où j'étais grand. Parce que dans le milieu, j'étais tout petit, j'étais une crotte de lit.
Puis ce qui est tough, c'est ça, c'est que les critiques ont été assassines envers les auteurs, là.
Ouais, ouais.
Tu sais, il y a des critiques que j'ai lues parce que je les ai toutes répertoriées ou presque, mais tu sais, il y a une critique qui dit le film est comme son auteur raté, tu sais.
Ouais.
Pas ça. Ouais.
C'est cheap un peu.
Ouais, c'est cheap. C'est vraiment cheap. Puis justement, c'est le premier épisode que j'ai fait. Puis je voulais pas le mettre en premier parce que, tu sais, je me disais, il me faut un gros canon. Fait que j'ai commencé par Véro, mais le premier épisode que j'ai enregistré, si vous le réécoutez, ça va paraître, je suis ultra nerveux. Puis c'est comme le pilote de mon balado, ça a été cet épisode-là. Puis je suis allé chez elle en plus. Elle m'a reçu chez elle à Saint-Hyacinthe. Puis depuis ce temps-là, c'est une amie, là. Je l'adore. Je l'aime plus que moi,
pour vrai,
vie, là.
J'ai commencé avec cet épisode-là sous le conseil d'Anto, puis quand je l'ai fini, j'ai comme écrit, j'ai dit, les gars, pour vrai, je suis bouleversé, tu sais.
Ouais.
J'ai vraiment connecté avec ce qu'elle disait, puis tu sais, l'espèce, on a retiré une souffrance, là, dans le fond, là.
Oh oui, oui, oui.
Cette expérience-là, puis pour vrai, j'étais vraiment sur le cul, là. J'étais comme, hey, pour vrai, si c'est ça tout le long, ben, le podcast, ben, d'un, ça veut dire qu'il est excellent parce que ça me donne des émotions, dans le fond, là. Hey, mais ça aurait été rough, là. Tu sais, là, j'étais allé avec Pierre Lebeau, puis là, je suis en train d'écouter François Chénier, là. Tu sais, c'est pas le même ton tout à fait, là. C'est un peu plus nuancé, là, tu sais. Mais pour vrai, t'as un don de faire parler tes invités parce que j'ai l'impression qu'ils se laissent aller, là. Tu sais, vraiment, là, ils se confient à toi, là. C'est vraiment bon.
Ouais, puis j'ai essayé aussi d'avoir Sylvain Raté, pour lui, c'est vraiment une blessure, là. C'est une très grosse blessure, ce film-là, et il veut pas en parler, puis j'espère un jour le convaincre du contraire, parce que ce serait intéressant, justement, d'avoir sa version à lui, parce que on les a très peu entendus quand le film est sorti, on les a comme mis aux oubliettes, puis on a mis de l'avant Louis Saya, Véronique Loutier, Stéphane Rousseau, mais tu sais, c'est triste parce que c'est eux qui ont écrit la majorité du scénario, là.
Mais en général, j'ai l'impression que dans le cinéma, les auteurs, les scénaristes sont un peu oubliés, tu sais. On parle tout le temps d'un film de telle personne, c'est le réalisateur.
C'est le scénariste. C'est un réalisateur ou un grand acteur. C'est soit un film de Tarantino, exact, ou de Tom Cruise.
Des auteurs ou des scénaristes vedettes, il n'y en a pas tant, tu sais.
Je te l'avais dit.
Je me lance dans la distribution du film. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de gros noms dans cette distribution-là, qui étaient des gros noms à l'époque aussi, soit dit en passant. Là, ça fait 18 ans des Dangereux, mais quand même, c'était tous des gens qui étaient connus. Ça a commencé par Véronique Cloutier dans le rôle de Roxane Labelle, la chanteuse. Stéphane Rousseau dans le rôle de Francis Jobin, comptable de Paul, producteur et père de Roxane, qui est joué par Marc Messier. Mm-hmm. Pierre Lebeau dans le rôle du tueur à gages Dirty Henry. Et son acolyte Tiger, qui est joué par Didier Lucien. Selon moi, le plus beau duo de ce film-là.
Oui.
Oui.
Ouais. À mon humble avis.
Ouais.
Vas-y.
Je vais en parler un peu plus. C'est pour moi, mettons, pour avoir entendu ton entrevue, Marc-André, avec Pierre Lebeau, c'était ce que j'attendais le plus en réécoutant le film, c'est de voir l'espèce de connexion qu'il y a eu avec Didier, parce qu'il en parle dans le balado, puis on le voit, là. T'sais, genre, c'est palpable que ces deux gars-là,
T'sais, se sont connectés, puis ça marche vraiment bien.
Ah oui, il y avait du fun, là. Il y avait vraiment de l'air d'avoir du fun pour vrai, là.
Puis il y avait du fun à jouer deux personnages qui s'écoutent pas pantoute. La même, la même personne qui coupe, qui s'écoutent pas parler dans les voisins, mettons. Mm-hmm. C'est qu'ils ont chacun leur discussion, chacun de leur côté.
Alec, on est capable de parler avec des singes.
Ça se taille bien du pain tranché, hein?
Les tranchées, les grenades qui me tombaient dessus. Puis moi, je les désamorçais. En coquant dedans avec mes dents.
As-tu déjà remarqué ses dents, Tiger? Ils sont super blanches. Je me demande quel dentifrice il prend.
Un autre duo qui a quand même du sens pour moi dans ce film-là, c'est Guy Nadon dans le rôle de Boiteuse et Miro Lacasse dans le rôle de Bing.
Ah, il est tu drôle, Bing.
Moi,
ah, il était cœur, hein?
Ah, j'ai bon. Celui qui m'était un peu moins sympathique, c'est Michel Charette dans le rôle de Marco. Michel Charette que j'aime bien, mais là, dans ce film-là, il joue le frère suicidaire de Francis qui est dépeint comme un épais. Un peu comme son frère Francis qui est joué par Stéphane Rousseau. Là, ça fait un beau duo de pogo, pas les plus dégelés de la boîte.
Ouais, un des deux qui est plus moté que l'autre. Sa longueuil, sa coupe longueuil.
Ouais, mais il est pas plus ou moins brillant que son frère. Les deux sont...
sont un peu, ouais.
Assez épais.
Ben, pas mal tous les personnages sont épais.
Hey! Il y a un trou! Il y avait pas ça tantôt! Il y avait pas un trou tout à l'heure!
Un autre duo dans le film, c'est Russell Yeoman dans le rôle de Lockfou et Albert Kwan dans le rôle de Brad, Brad the Bouncer. François Chénier, Carl le Catcheret, dans le rôle du cuisinier Mario. Pensez-vous que les capsules Chef Pat de François Chénier, c'est un genre de spin-off dangereux ou.
C'est bon! Calvaire! Et hey, puis présentez de même, là, ça, là, on s'entend-tu que c'est minimum 30$ au pied de cochon? All right! Si j'ai mangé les pattes! OK! Moi, c'est Pat! Elle, c'est Cap! On s'envoie sur patlechef.com!
C'est sûr que oui.
Il est viré crackpot, là.
Il a fait... Je suis pas allé au bout de ce que je voulais faire avec ce personnage-là. Il m'a fait une série de capsules avec une porn star. Puis...
c'est ça. J'avais trouvé ça vraiment drôle, moi, ces capsules-là.
Ouais, puis moi, je le connaissais pas d'autre chose que Radio Enfer. J'ai bon, il essaie de se défaire de des émissions jeunesse avec ça, là. En plus, c'est avec Ariel Rebelle.
Ouais.
Et dans les premiers épisodes, il était topless.
Le système de climatisation de l'école est enfin réparé. Ça, c'est une excellente nouvelle parce que ce midi, au menu de la CAF, il y a des bines.
Avez-vous déjà vu ce qu'il y a dans le fond d'une canne de bines? C'est comme un fucking book. Cake de pre-com, fait que là, tu rinces ça, OK?
Tu rinces ça.
Tu bois pas ça.
Ça met aussi en vedette Louise Portal dans le rôle de Joanne, la mère de Roxane et ex de Paul.
Ah, une autre personne que j'aimerais avoir à mon podcast, mais je suis pas capable.
C'est vrai?
Pas de la rejoindre, non. Okay. Si tu m'écoutes, Louise, je te veux.
Elle écoute les films dans le cabanon, je pense.
Oh ouais, elle commente tout le temps. Ouais. Dominique Kennel dans le rôle de Rachel et finalement, James Einman, le narrateur du film.
Oui,
c'est vrai ça? Ou, j'ai vu ça sur IMDb et je ne l'ai pas reconnu sur le coup en écoutant le film.
Ben, c'est ce qui est écrit. Faudrait que je vérifie dans le générique, mais il me semble que oui.
Parfait.
Oui.
Je vais rentrer le générique ici.
Anto, est-ce que tu as nommé Patrick Drolet qui joue le personnage? Oh, vrai, le personnage. Son nom de personnage, c'est Gay.
Tout simplement. Gay. Oh, c'est le gay.
Sur IMDb, c'est écrit Gay. Tout simplement.
Pourtant, il y a un personnage beaucoup plus gay qui le précède dans cette scène-là. Il y a vraiment ce qu'on appelle dans le cabanon, Marc-André, la tapette de théâtre d'été.
Trompé.
Ouais, c'était Bobette, c'était qui le beau cocon?
C'était mon gros deal.
Ouais.
T'es
là, ça va faire, là?
Excusez, les fifs, ça me
cœur. Ah, ça va-tu être une tapette de théâtre d'été, mais pas tant que ça. Ça à part son truc sur le miroir, son rétroviseur d'auto, là, c'est comme deux hommes mariés, c'est juste pour être là. OK, ce personnage-là, il est gay. C'est juste pour dire, OK, là, pour être là, il est gay.
Selon les informations que j'ai trouvées, c'est un budget de 7,5 millions. Tu peux valider ça, Marc-André? Ça ressemble à ça?
Ça aussi, dans mes calculs, entre 7,2 et 7,4.
C'est bon. Parfait. C'est quand même un bon montant, là. À l'époque, là, 7,4. Mais encore aujourd'hui, au Québec, c'est une motte, là. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Box-office, au final, avec la distribution internationale, j'en sais rien. Je ne sais pas. C'est plus compliqué peut-être à expliquer.
Avec l'international, je ne le sais pas. Je ne le sais pas avec l'international, mais je pense qu'il a fait quelque chose comme 400 000 au Québec.
C'est bon.
Non, je suis pas bon, Anto.
Non, ben c'est pas bon, mais à la différence qu'ici, c'est des films qui sont subventionnés plutôt que de l'argent qui vient du privé. Ouais. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de faire trois fois le budget.
Mais ce qui a permis de sauver les meubles, entre guillemets, c'est vraiment les copies physiques. Genre, il paraît que ça s'est vraiment vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est ça qui a réussi à éponger la dette des dangereux. C'est vraiment sa sortie sur support physique à l'époque. Je pense que la dette a baissé à 300 000 $ au final, là.
C'est spécial quand même. Les gens ne daignaient pas aller voir le film en salle, mais ils payaient pour une copie physique.
Et surtout le fait qu'il a été vendu dans 17 pays, on l'oublie, là, mais 17 ouais. pays à travers le monde. Là.
Terrível, terrível, terrível! Oh, meu Deus, sabe? Eu aconselharia você a fazer uma abertura de poros, uma esfoliação e então a extração.
Parece muita coisa.
Ça a terminé 9e au box-office des films québécois cette année-là, juste en avant de Station Nord, qui est assez cringe, by the way. Si jamais on a envie de faire un film québécois de Noël, ça en est tout qu'un des séquences d'effets spéciaux là-dedans remarquables.
Rudolf, Comet, activez votre poudre de panache. C'est un départ!
Si vous faites un spécial de Noël, vous devez le faire sur Station Nord. Ouais. Pour vrai.
Ça va être le prochain Noël, peut-être.
Mais moi, je l'ai vu en salle, Station Nord. C'était de mon âge à l'époque, j'ai vu ça.
Pourquoi?
Ben parce que j'étais un petit cul. Je suivais ma mère au cinéma. Tu sais, à 11 ans, j'avais pas encore mon premier char. Fait que c'est pas moi qui décidais de qu'est-ce que je faisais de mes fins de semaine.
Mais à 11 ans, t'avais-tu aimé ça?
Non. mais tu sais, j'étais certainement moins critique qu'aujourd'hui, mais c'est pas un film que j'ai réécouté par la suite.
Ben ouais,
c'est évident que c'est tout croche comme film. C'est pas subtil.
Puis il y a des films qu'on voit quand on est plus jeune, qu'on trippe, on les revoit par après. Est-ce que moi, j'ai vu, par exemple, Batman et Robin au cinéma en 97. J'avais 11-12 ans. J'ai trippé, là.
Mais ouais.
Quand je l'ai revu par après en cassette, non, finalement, c'est là.
Moi, j'ai juste à part là, les gars, avec Mac et moi. Quand j'étais jeune, c'était un film que j'aimais beaucoup.
T'as le droit, t'as encore le droit de l'aimer, là. Je reconnais que.
Non, c'est ça l'affaire, c'est que je veux rien reconnaître. Je veux pas qu'on le fasse dans le cabanon. Ça va me blesser.
On fera un épisode, puis tu seras pas là, puis on va inviter Marc-André à la place.
Ben oui. Voir la scène, le genre de musical dans le McDo, ça vaut à peine.
Ouais. Hey, on parle de placement de produits aujourd'hui, mais ça, c'en est un style, là. McDo. Hey, Ronald McDonald qui est là. Ça vous est-il déjà arrivé d'aller au McDo et Ronald était là?
Live ou assis sur...
Live, pas en plastique.
Comme ça, là. Avec un petit trou. Là. Je sais pas quoi qui servait le trou. Tu sais, il y avait les jambes de Ronald étaient comme pliées pour qu'on puisse s'asseoir sur lui. Il y avait un trou là-dedans.
C'est bizarre s'il y avait ta phrase.
Non, mais
Ronald était là avec un trou. À quoi qui servait le trou?
Non, mais il y avait les jambes croisées de même. Puis au centre de tout ça, dans le siège, il y avait un petit trou comme un drain.
Ouais,
comme mais il y avait bien des jeunes qui s'échappaient sur Ronald.
Non, mais je pense que c'est plus que ça. C'est que ce genre de truc qui va dehors aussi. Fait que tu sais, il y en a qui le mettaient dehors, fait que t'as pas le choix de mettre un drain pour que ça coule, puis il y en a qui
c'est crissement moins drôle, mais ça a beaucoup de sens.
Hey! Il y a un trou! Il y avait pas ça tantôt! Il y avait pas un trou tout à l'heure!
Le film s'ouvre sur le personnage de Véronique Cloutier, Roxane, qui est en concert. On comprend que c'est une vedette de renommée internationale, si je me trompe pas.
Oui.
Mais elle joue genre dans le setup de la galette de Sarrazin, je sais pas trop où. C'est vraiment lettre, là.
Ben, moi, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'elle est à Québec, mais c'est pas dit de façon implicite, mais on comprend qu'elle est pas, tu sais, que le show final se passe à Montréal, mais qu'elle serait en théorie à Québec.
Oui, elle dit Québec, puis son père, un petit peu plus tard, dit « Demain, t'es à Montréal, repose-toi. » Mais tout ça est enregistré au Sepsum, je me trompe pas?
Oui, c'est ça. Mais ben, ils ont essayé d'avoir le centre Molson, puis en tout cas, dans les articles, ils en parlaient beaucoup, ça allait se tourner là, puis finalement, ça s'est fait au Sepsum.
Ouais, Molson n'a pas voulu, fait qu'ils sont vengés, ils sont allés voir Labatt. Solide.
Tu vas adorer ce vin. Il me faudrait quelque chose de plus fort, je crois.
Labatt bleu. Bonne avance.
Je pense que c'est François Chénier dans ton podcast qui racontait que le placement de produits se négociait un peu sur le plateau. Puis comme
oui, ils se négociaient en the fly, c'est qu'à un moment donné, ils pouvaient avoir Coke, puis finalement, fuck it, on change tout, c'est rendu du Pepsi. T'sais. C'est ça que François Chénier disait, c'est que ça changeait à même le film pendant qu'il tournait là, les placements de produits.
Et ça, c'est des moves de Moneymaker sans bon sens. On fait pas ça avec le podcast, nous autres, en plein milieu de l'épisode. Dire comme, OK, c'est le trou du diable, finalement, c'est plus.
Mais il paraît que Richard Goudreau était excellent pour ça, justement, dealer du placement de produits. Là.
J'ai vu un assistant de production ou un producteur délégué sur le plateau raccrocher puis changer une marque de liqueur sur le spot parce qu'il y avait plus de l'autre compagnie. Justement, je pense que c'était dans le restaurant chinois où il y avait des affiches ou je sais pas quoi, mais en tout cas, je me souviens qu'il y avait des affiches puis le produit en question là, de la liqueur là, tu sais, une boisson gazeuse, puis ils l'ont changé on the spot. Puis peut-être qu'ils ont pris une chance, je suis même pas sûr de ce que j'avance, peut-être qu'ils ont pris une chance et ont dit OK, on le met puis on s'arrangera après avec le cash. Au pire, on n'aura pas plus, mais on aura essayé ou je sais pas. Là, ça, c'était de cet ordre-là. Là,
parlant de placement de produits, vite pendant le concert de Véronique Cloutier, de Roxane, on va dire Roxane, il y a des grosses bannières de Labatt bleu qui sont vraiment... Ils sont pas là par hasard. Ils sont énormes, éclairés, intenses. Puis il y a des endroits où il n'y aurait pas de grosses bannières Labatt bleu en temps normal. Et ça, c'est le début de beaucoup de placements de produits. On remarque Stéphane Dufour, le guitariste d'Éric Lapointe, qui se pète un solo. Un excellent guitariste. Moi, j'aime ça à chaque fois qu'il se pète un solo, le guitariste.
Je m'excuse au Grand Bois, by the way. Je bois une bleue.
Mais Stéphane Dufour, je dois dire qu'il est écœurant comme guitariste.
Ben oui.
C'est
ben
hallucinant, là.
Ah oui, j'étais pas sarcastique, j'étais très sérieux.
Et le nom de sa pièce, justement, le genre de solo qu'il fait... À la fin du film, je sais que je m'avance, mais il s'appelle sur le CD Orage Mécanique.
Ah, ouais, j'ai vu ça.
Très cool.
C'était clair.
Puis d'ailleurs, ce qui est drôle sur IMDB, la personne qui a rentré les crédits sur IMDB a crédité Réal Bossé comme étant le guitariste du groupe. Puis c'est vrai qu'il y a une ressemblance entre Stéphane Dufour et Réal Bossé. Puis, je l'ai dit, Stéphane Dufour, c'est le guitariste d'Éric Lapointe, mais il y a aussi Martin Bolduc, le bassiste d'Éric, qui est dans le band de Roxane.
Oh, on a un connaisseur.
Hey, j'ai vu, no joke, pis c'est pas par choix, beaucoup trop de shows d'Éric Lapointe.
Ouais, c'est vrai.
c'est le travail, c'est comme ça. J'ai vu comme trop souvent un show d'Éric Lapointe.
Aux 2 ans depuis les 10 dernières années.
Ah, et même plus, dans toutes sortes de conditions. J'ai même travaillé sur un show d'Éric Lapointe, que c'était le party d'un propriétaire de magasin de Bessic à gaz dans sa cour. Lapointe dans sa cour. Ensuite, Roxane qui crie « Merci Québec! » Encore devant une bannière. Elle arrive en coulisses d'autres bannières. Puis là, un long traveling avec son père. Puis on comprend que son père, c'est le gérant, producteur, moneymaker de ce film-là.
Qui est Marc Messier.
Oui, qui est Marc Messier, ben oui. Que c'est drôle, on dirait que c'est comme dans le même univers que les boys, puis c'est un peu le même personnage.
Le train passe, Stan, puis moi,
je manquerai pas le bateau.
Tu sais, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, fuck, Bob, Hollywood, c'est pas plus loin que Fort Lauderdale, puis t'es allé combien de fois à Fort Lauderdale l'année passée?
C'est-tu un point de vue?
Ben voyons. Je sais que t'es fatigué, mais là, tu vas te reposer dans la limousine, dors pendant le trajet. Puis t'es pas obligé de faire la conversation avec Georges, hein. Georges, il est là pour chauffer, laisse-les chauffer. Hein? C'est-tu correct, ça? Tu vois, ça va bien aller.
Quand ça va bien, ça va bien. Si on revient à Marc Messier aussi, petite anecdote que j'ai pas mis nulle part, je pense. Dans les entrevues, puis quand je lisais aussi beaucoup, il essayait de faire ça, trancher, là, que ce soit pas, qu'on l'associe pas à Guy Cloutier.
Ouais. Parce que genre, il y a beaucoup de monde qui faisait le parallèle entre Véronique Cloutier, son père est agent, Marc Messier, ouais. Guy Cloutier, mais ils ont toujours essayé de casser ça coûte que coûte.
Mais Véronique en parle aussi dans le making-of du film, qui est disponible sur ta chaîne, Marc-André Roy, sur YouTube. Ouais. Le making-of est là, le film est là, puis le film est là en anglais aussi, puis en grec.
En portugais.
En portugais.
tout bien, non me mexe, non me mexe, nunca fiquei tão parado na minha vida.
Ça fait penser à ta chaîne, je suis allé voir ta chaîne, puis j'ai vu, c'est hors sujet, là, mais Mortal Kombat avec le thème de District 31. Ça t'a fait rire, ça.
Fait que on voit Roxane s'en aller de je sais pas trop là, genre le Colisée Pepsi de Québec là, en limousine, puis là il y a des shots d'hélicoptère, puis il y a un zoom in magique dans la limousine, la caméra rentre par la fenêtre de la limousine qui disparaît, et là on est peut-être à 5 ou 6 minutes du début du film. Et tout de suite il y a un élément déclencheur, on se rend compte que le conducteur de la limousine, c'est pas, je me souviens plus comment il est supposé s'appeler, c'est Georges. C'est pas Georges, c'est Boiteuse, un des antagonistes joué par Guy Nadon. Puis moi, j'adore Guy Nadon, vraiment. Dans toutes sortes de contextes, je l'ai trouvé malade, mais sa première phrase dans ce film-là, j'ai fait comme j'espère, c'est pas ça pendant 2 heures, parce que ça va être vraiment lourd.
Moi, c'est pas Georges. C'est Boiteuse.
C'est Boiteuse avec une espèce de petite voix, ouais, qui lui ressemble, ouais, pas du tout, tu sais.
Mais sa voix, on dirait qu'il trouve son personnage dans le film, parce que sa voix change continuellement dans le film.
C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnages. Moi, c'est le point qui m'a le plus agacé de loin dans ce film-là. C'est le jeu très inégal d'une scène à l'autre.
Moi, c'est pas Georges. C'est Boiteuse.
Oui, mon espèce de fin de race. Des fois, ça m'aiderait à cresciter ta mort.
Ben, dans mon podcast, j'ai appris qu'il n'y avait pas de direction d'acteurs. Les acteurs étaient très peu ou pas dirigés pendant le film, puis ça paraît vraiment beaucoup.
Ça aurait du sens. Ben ouais. J'ai pas de misère à te croire, moi.
Toi aussi, papa.
On découvre Francis, le personnage de Stéphane Rousseau, qui passe sur un trottoir en camion. Fait que déjà, tu sais, ça, c'est le bon gars du film, ça.
Ouais.
C'est le même qui nous est présenté.
Avec un bel accéléré, là.
Mm. Ouais. Ça, là, s'il y a de quoi qui m'écœure dans le cinéma, c'est des estis d'accélérés, là.
Puis il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs, malheureusement, dans le film. Je trouve, j'ai pas encore trouvé l'accéléré que je fais comme, c'est une bonne idée, c'est bien placé. Tu sais, il n'y a pas tant de ça, on dirait.
Mais à ce moment-là, dans le film, il n'y a pas juste l'accéléré. Il y a comme beaucoup d'exercices de style là, dans cette espèce d'intro-là du personnage de Stéphane Rousseau. Il y a des Dutch, fait que la caméra est de côté. Il y a de l'accéléré, il y a des focales très courtes, là, tu sais, on le voit comme la caméra n'est pas riguée sur lui, mais presque, toutes des flous autour de lui, là, on dirait que la main, c'est pas tout à fait sur une même timeline. Déjà en partant, on installe que ça va être un film avec un style assez décalé, ce que moi j'ai vraiment pas détesté, j'ai trouvé ça osé, j'ai trouvé que c'était une belle prise de risque, honnêtement, puis la plupart du temps, visuellement, c'est assez intéressant, en fait, comme
ça. Oui, moi aussi, je pense, mis à part les accélérés que moi, j'aime pas, là, en général, là, globalement, ça marche pas mal tout le temps.
Ben, si on parle de composition, moi, ça me parlait beaucoup. Ouais. Au niveau du montage, je trouve que ça fait mal à la comédie, mettons. Il y a des timings qui sont assez off à plusieurs reprises, puis on va y revenir.
Come on! On n'est pas dans un enterrement! C'est plate!
Stéphane Rousseau s'en va chez Star Bédard.
Oui.
Je suis rentré là souvent chez Star Bédard. Ma mère était coiffeuse, j'allais chercher ses produits là-bas.
Ah ouais, c'est bon ça?
Ouais. Non, quand j'ai vu Star Bédard, il y en a un à Trois-Rivières-Ouest, j'ai fait comme « Hey, je connais ça ». Puis c'est vrai que les vendeuses ressemblent un peu à ça en plus chez Star Bédard. De tous les personnages désagréables de ce film-là, c'est possiblement le pire. Ginette, qui est la vendeuse, et moi j'ai noté, elle me gosse déjà, puis j'espère qu'elle reviendra pas.
Ouais, elle est over the top. C'est overacté, comme beaucoup de personnages dans le film, mais elle en particulier, là, c'est...
Cela dit, Stéphane Rousseau, à ce moment-là aussi, il est un peu comme Théodore Rex, là, il s'enferge dans les étagères autour.
Ouais,
de...
ouais.
Il y a full d'espace, mais il réussit à tout accrocher pareil.
Non, 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 non. on va regarder, puis c'est comme, ouais, puis c'est cringy un petit peu, ça va être là. Ouais, comme beaucoup de moments dans le film.
Non.
Ça va.
Oui.
Non.
Oh, c'est pas beau.
Oh, c'est qui?
Oh, c'est pas. Oh,
c'est pas beau.
Moi, je suis prêt pour une pulvérisation, une exfoliation suivie d'une extraction.
Ça fait beaucoup.
Stéphane Rousseau se rend au casier comme une espèce de petit endroit où il y a un paquet de casiers, puis il faut qu'il dépose le sac dans un de ces casiers-là, puis qu'il laisse la clé dans une poubelle. Et là, il y a de l'accéléré. Stéphane, il est rendu avec un gros chapeau qu'il a acheté à Huguette.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Huguette qui mange. Ben, Huguette qui était Stéphane dans ce temps-là, puis elle mange du...
Du Subway.
C'est vrai, j'ai pas remarqué.
Ah oui. Fait quoi, il y a comme une espèce de gros chapeau très cartoony, encore une fois, puis son jeu à ce moment-là, tu sais, il y a lui qui se pète la tête d'un case puis qui capote un peu.
Non!
Ouais, c'est ça, c'est vraiment over the top.
Non!
On va à la rencontre de Locke Fu, joué par Russell Yuen, et Brad, joué par Albert Kwan, dans le bureau de Paul. Eux autres, ils viennent pour du cash. T'sais. Puis là, on comprend que Paul, c'est un gars qui a des problèmes d'argent. C'est genre la mafia, ces deux gars-là.
C'est la mafia chinoise. Puis je suis triste parce que Christy, on les voit pas assez.
Ouais.
Je les trouve quand même très bons, là. Puis, tu sais, même dans mes entrevues, ça a été les personnes avec qui j'ai le plus connecté, là. Russell Yuen est tout simplement hallucinant. Puis, tu sais, il me racontait dans mon podcast que lui, dans le fond, ce film-là, dans sa tête, c'est que c'était sa chance de percer au Québec, là. Mm-hmm. Lui voulait percer au Québec et Les Dangereux, c'était une tentative de ça. Puis, aussi, il a joué dans la même année dans les deux plus gros flops québécois et américains. Qui était, attends, c'était avec Eddie Murphy.
Plutôt Nash.
Il était tourné à Montréal aussi, si
pauvre je me trompe gars. Pas. Puis pas longtemps avant, il a joué dans le film préféré de Jean Gab, Battlefield Earth. Do you want lunch? Il y a une certaine diversité dans le film, mais le traitement qu'on leur réserve est franchement ordinaire, honnêtement. Pas surprenant, peut-être, pour l'époque. Là. Moins pire qu'Angelo, Fredo et Roméo en termes de stéréotypes racial. Mais quand même, ils sont là. Je veux dire, Russell Yuen et Albert Kwan sont même pas sur l'affiche. Tout le monde est là, à part ces deux-là.
Ça, d'ailleurs, je l'ai appris cette semaine. Même eux s'en souvenaient pas, mais ils ont fait le shooting photo pour l'affiche.
Mais voyons donc.
Mais ne se retrouvent pas sur l'affiche.
C'est-tu les deux seuls qui étaient dans le shooting photo qui sont pas sur l'affiche?
C'est les deux seuls.
Mais je pense qu'il y a un des deux a dit qu'il était juste pas connu. C'est une des raisons.
Qu'on fait dire.
T'es pas connu, donc t'es pas sur l'affiche.
Ouais, mais en même temps, Miro était pas si connu que ça non plus. Là.
Avoir le monde sur le poster, il aurait pu en rajouter deux autres, puis ça n'aurait pas changé grand-chose.
Ben oui.
J'ai remarqué à quel point les couleurs d'impression sur le verre sont dégueulasses.
Juste
en deux temps.
Michel Charette est incroyable.
Ouais, les yeux qui sont comme pas à bonne place, là, en tout cas, la couleur des yeux.
On parlait de personnages qui n'ont pas beaucoup de temps d'écran. Michel Charette arrive au bout d'une heure. Ça prend une heure avant que son personnage arrive.
Véronique Loutier a moins de 12 minutes de on-screen time dans le film. Là. Puis ça, je le sais parce que c'est Guy Cloutier qui l'a timé, puis on le voit dans le reportage de Flash d'époque. Elle a 12 minutes quasiment à peine. Puis même le chien est sur l'affiche. Et pas genre Locke Fu et Brad, tu sais.
Ouais.
Tu sais que c'est terrible. Ah, j'avais
pas vu. C'est un peu wrong, ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais c'est quand même, tu sais, je parlais du traitement qu'on réserve à ces personnages-là, mais dans les premières phrases que Locke Fu va dire à Paul, c'est qu'il serait triste que Paul décède. Puis il ajoute, moi, les enterrements, ça me rend aussi triste qu'une femelle sans carte de crédit.
Ouais. Moi. Les enterrements se me rendent aussi triste qu'un femelle sans carte de crédit.
Tantôt, je disais à Joël, moi, j'ai pas trouvé si cringy le film. Ce genre de réplique-là, ça me fait cringe un peu. C'est sûr, ça fait 18 ans. Là,
puis c'est un peu tous des trous de cul, les personnages. On dit qu'ils étaient stupides, mais c'était un peu tous des marles.
Ouais, puis ça reste quand même pas super loin des boys aussi.
Je voulais vous dire, je vous regarde depuis tantôt, là.
qui va venir.
C'est beau de vous voir manger votre hot dog. J'aimerais ça être à sa place.
Moi, je me demande juste le personnage de François Chénier, il sert à quoi? À part montrer que les Chinois sont violents puis sont intimidants, c'est... Parce qu'on va pas longtemps dans le film, il est juste là, regardez, je suis François Chénier, puis...
Puis il se fait voler aussi par Bing.
Ouais.
Puis oui, c'est vrai, parce que dans le fond, il a pas son argent. Il avait son argent, mais il se l'est fait voler par Bing. Puis là, Russell le croit sous, je me semble.
Ouais.
En tout cas, fait que c'est juste pour faire des liens que, genre, dans le fond, on dit que c'est à Montréal, mais c'est clairement fait dans un petit village, ce film-là, parce que tout le monde se connaît,
Christophe. Tout le monde a des liens, tout le monde est connecté à quelque part sans le savoir. Puis
ça a été fait à Jonquière. C'est sûr que ça a été fait à Jonquière.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai, je disais tantôt que tu sais, je trouvais ça le fun parce que souvent dans les films qu'on qualifie de mauvais, un truc qui revient souvent, c'est qu'il y a des personnages qui sont installés pour absolument rien, là, qui reviennent jamais. Puis dans ce film-là, ils réussissent à rapper tout ça à la fin, tout le monde est là, puis il y a à peu près personne qui est là pour rien. Sauf peut-être François Chénier.
Ah, mais je peux se le mentionner, mais il y a quand même la fameuse scène dans le wok, là, la face dans le wok qui se fait brûler. Puis, comme tu dis, c'est une espèce de juste un démo d'effets spéciaux, juste pour montrer.
C'est un chauffe-douleur.
Hein. Mais c'est là qu'on voit, OK, là, il y a un clash. Au début, c'est cartoony, puis là, c'est super violent.
Francis sort de ce que... Ça a peu d'importance ce que c'est comme endroit dans le film, mais pour nous, c'est la gare.
La gare Windsor, oui.
Exact, c'est ça.
À côté de Sandel.
Exactement. Il sort de là, rentre en collision avec Bing. Il sait pas encore qu'il va avoir des problèmes avec ce gars-là un peu plus tard. Puis il dit, on regarde où on marche peut-être un peu, hein, que sa voix de high pitch encore une fois.
Juste dire qu'il passe proche de se faire frapper par un char. Puis il fait un petit...
Ouais.
Ça, c'est un cartoon, c'est ça.
Présentation de Dirty Henry et Tiger. Peut-être les plus belles prestations à venir jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce que la voix off me gosse pareil.
Dieu de nous trembler, alias Tiger. Élevé sur le plateau Mont-Royal, il a vite appris à survivre dans le parc La Fontaine en pourchassant les vieux cochons qui lui offraient de l'argent. Noir depuis sa naissance, Tiger est un homme profondément frustré par sa calvitie naissante.
Ça manque de gingembre.
Depuis, il est disciple de la philosophie de Tiger Woods.
Et j'ai aimé ça dans le making-of qu'il parle à son personnage puis il dit que c'est sûrement un gars qui est allé en prison. Puis au lieu de se tourner vers Dieu en lisant la Bible, il a lu le livre de Tiger Woods. C'est comme son Dieu maintenant. Puis c'est intéressant quand même.
Ah, j'avoue, ouais.
Moi, dans ma tête, il est allé en prison à un moment donné. Et, je sais pas, après avoir tué sauvagement quelqu'un, sûrement. Et, en prison, il y a du monde qui trouve Dieu. Mais lui, il a lu le livre de golf de Tiger Woods. Et c'est devenu sa philosophie. Mais c'est parce que ce livre-là est écrit un peu... comme une Bible, tu sais.
Certaines fois qu'ils le disent dans le film, donc, tu sais, ça.
Ouais, c'est ça. La voix off aurait dû le dire.
Ouais, James, exact. Pas sur le gun avec sa voix.
Pringle O'Clock.
Ah,
Pringle O'Clock.
Je pense que j'en mange. Il m'en reste plus, il me reste juste ça.
Ah, ben là. J'en ai une autre boîte, moi, je suis correct.
Tu me l'emmèneras. Tu me piches-moi-en par la caméra.
Oh!
Le timing, là.
On a notre extrait. Le chip va fader vers notre panneau. Fait qu'on nous présente Johan. Je passe vite là-dessus parce que c'est un peu sans intérêt. C'est un personnage qui va revenir pour un plot twist plus tard, mais honnêtement, entre-temps, il se passe pas grand-chose avec elle. On nous présente Francis, puis à quel point c'est un épais. Je trouve ça drôle, tu sais, que t'sais, j'aime ça qu'un protagoniste ait des failles, mais on dirait que celui-là a à peu près que des failles.
Ouais.
À part être loyal, il y a très peu de qualité, cet homme-là, ce personnage-là, du moins.
Est-ce qu'il en fait de lui qu'un personnage qui est peu attachant?
Ouais.
Parce que je suis sûr que peu importe la décision qu'il va prendre, ça va être la mauvaise, mettons. Là. C'est tout le temps un fail. Tu sais.
Ben moi, j'aimerais vous poser la question... Quel personnage vous trouvez attachant dans cette belle bande?
Eh hey boy!
Ben moi, Boiteuse puis Bing, c'est des méchants que j'ai vraiment beaucoup aimés. Mais la relation entre Dirty Henry puis Tiger, je la trouve mieux ficelée, mettons. Hein? Mais mettons, Bing, moi, c'est le personnage qui m'a fait le plus rire, mettons.
Oui.
Okay. C'est genre, rire fort, là. C'est pour rien, mettons, là, tu sais. Pour une niaiserie, là. Ouh, c'est chaud.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est chaud.
Enlève-les! Oui, tout ça.
Le seul personnage attachant pour moi, c'est le capitaine de bateau joué par Denis Talbot.
Oui! En aurais-tu une cigarette, s'il te plaît?
Non, pas
merci.
Non,
c'est un paquet.
Hey!
Y en a-tu des fuckés?
Parlant de caméos absurdes, on passe au gala où Roxane Labelle va gagner un prix. C'est un autre flashback. Et là, il y a un caméo de Pierre Marchand, qui est un producteur en musique assez connu, qui était ex-patron de Musique Plus à un certain moment de sa carrière. Il y a Patrick Lagacé, journaliste. Oui. Ça, je pense que tu l'avais vu passer. C'est une scène grandement improvisée, à en croire les dires de Véronique Loutier dans le making-of.
Oui, ça a de l'air.
L'envoyer au lutrin, puis vas-y, beurre épais. C'est ce qu'on y a.
Oh, oui. Je veux dire que le trophée, il est lait. Une espèce de CD en dessous, puis une courbe.
Ça en prenait un gros pour qu'elle puisse assommer une des journalistes et devenir encore moins sympathique qu'elle l'était déjà.
Ouais, une critique. Ouais. Une critique qui n'a pas aimé ça, c'est comme. Ouais.
Moi, ce bout-là, j'ai trouvé vraiment drôle et très ironique que dans le film, ils vont fesser sur une critique, puis quand le film est sorti, c'est la critique qui a fessé sur le film.
Moi, j'aime Marc Messier qui dit « Elle l'a pas dit, elle l'a pas dit. »
Non, elle l'a pas dit.
On voit Rachel, la copine de Boiteuse, qui chante la ballade des dangereux avec une voix insupportable.
D'ailleurs, je tiens à dire, si vous écoutez les deux autres versions que sont ma chaîne YouTube anglaise et portugaise, ils ont essayé de justement refaire la chanson. Fait que c'est écœurant de voir ça. Si vous voulez le mettre au montage, c'est vraiment très drôle.
Et là, oui, c'est la présentation de Bing. Moi, c'est une des scènes que visuellement, c'était peut-être la moins intéressante, mais c'était une de celles qui m'a fait le plus rire. C'est le personnage de Boiteuse qui brûle Bing à chaque fois qu'il essaie de prendre de la coke pour essayer de le sevrer. Finalement, comme son rehab.
Ouais. C'est un peu drôle.
Ça m'a fait rire. Puis dans le making-of, on voit le personnage Miro. Qui joue le personnage de Bing qui dit à un moment donné à Guinadon « Juste colle pas le bout de métal sur mon bras parce que c'est vraiment que
t'es chaud,
tout ça.
Fais juste pas coller le métal sur le bras, Guy.
OK, excuse-moi.
Aïe, aïe.
Ensuite, on voit le personnage de Francis qui rencontre le gars du parking, Mario Lirette, l'animateur de radio de qui on a parlé plus tôt. Il va téléphoner à Boiteuse. Il va comme être pris entre deux cabines de téléphone parce qu'il y a une madame qui vole sa cabine. Téléphone à Boiteuse, voit sa voiture se faire remorquer, fait qu'il part en courant puis il oublie le sac, évidemment.
Il y a un bel accéléré encore.
Oh. Oui, et oui. Il se rend compte qu'il a oublié le sac, puis là, il y a un zoom-in dans sa bouche.
Ouais.
Il y a un effet visuel de piètre qualité. Je sais pas si c'est attribuable, encore une fois, au gars qui est rendu superviseur pour la compagnie de George Lucas, mais si oui, c'est sûr qu'il l'a pas mis dans son démo, ce shot-là.
À cette scène-là, on remarquera aussi que Stéphane Rousseau cogne la caméra et la caméra, la caméra bouge, là.
Vraiment, il se pète la tête dans la caméra, puis ça a l'air d'un vidéoclip de Limp Bizkit quand il court.
On voit Johan qui soupçonne Paul de lui cacher quelque chose. Les tueurs à gages se trompent de gars puis tuent quelqu'un d'autre qui est en train de voler l'auto de Francis, habillé exactement comme Francis. Fait que là, il y a comme un cadavre qui va traîner dans le char à Francis pour un bout. Et là, il y a la course dans
le stationnement. Je sais pas si vous avez remarqué, pour revenir à la scène du gars qui se fait tuer quand Stéphane rentre dans son auto et essaie d'essuyer. Ouais. La tâche, il y a un bruit de scratch de disque. Genre, c'est comme s'il faisait du scratching de disque. Ah oui, réécoutez-le. Puis au début, il fait comme nettoyer. Ouais. Ça fait, puis à un moment donné, ça devient genre un début de tune hip-hop de Tony Hawk Pro Skater 2. Là.
C'est là qu'on voit, après que Stéphane Rousseau court, c'est là qu'il saute dans l'escalier roulant. C'est même qu'on appelle ça, ces escaliers-là, je ne sais jamais.
Ben, l'escalier...
Ouais, l'escalier mécanique, là.
Le centre d'achat. Là.
L'escalator. Il saute dans la rampe entre les deux escalators. Puis c'est là qu'il va se blesser. Comment t'as dit ça, Marc-André?
On dirait un nom de monstre dans Master of the Universe.
Oui, c'est ça. Skeletor, puis escalator.
C'est son frère un peu handicapé, genre.
il saute dans l'escalator, puis il s'est blessé au cul. Puis on voit ça dans le making of, on voit la blessure toute. Ils ont filmé cette take là où il se blesse. Action!
Je me suis blessé la fesse, putain.
Puis on se rend compte que le sac après lequel il courait, c'est un sac rempli de dildos.
C'est un gag qui m'a fait rire, moi.
J'ai pas parce possiblement qu'en 2002, il y avait beaucoup de sacs jaunes avec une étoile rouge en circulation. Là.
Ouais. Moi, c'est un gag qui a bien marché. Tu sais, quand le gars qui avait pogné, comme qui pensait que c'était son sac, qui tombe, puis là, Stéphane Rousseau, il dit « C'est mon sac! C'est à moi! » Puis tout ça. Puis quand il y a des zips, il y a plein de dildos qui tombent, puis là, il y a comme plein de monde qui le regarde, puis il est gêné. « Non, non, c'est juste un sac qui ressemble au mien. » Moi, ça, ce bout-là, ce scène-là,
m'a fait rire. C'est un beau set piece, la course, la cascade dans l'escalator, puis les bidons. T'as raison, ça marche.
Après
ça,
il dit, c'est pas mon sac, c'est pas mon sac.
C'est pas mon sac. Il est pareil comme mon sac, je... pas le mien. Je le sais. Pareil.
Francis découvre le cadavre dans sa voiture, essaie d'essuyer. Là,
ouais, c'est ça.
De scratch, comme tu disais. C'est comme c'est Linkin Park dans la fenêtre.
J'ai trouvé ça intéressant que le personnage de Stéphane Rousseau, le cœur, il lève, mettons. Tu sais, genre, un peu comme si, mettons, moi, demain matin, je retrouve un cadavre dans mon char, probablement que je serais pas comme « Ah, tu sais, ça me dérange pas. » Tu vois qu'il est affecté face à ça.
Il est affecté, mais ça devient comme « overactive », ça se passe pas. Non, il est à deux mains.
Oui, mais je pense qu'il aurait pu... Il aurait pu avoir un danger qui fait juste comme je m'en calisse, je le tasse. Vu qu'il joue comme un gars qui est épais puis cabotin, mettons. Ils sont pas allés là-dedans, puis je trouvais ça intéressant. C'est la première fois qu'il suit la vite, il y a genre le cœur qui lève. Je me fais, ah, tu regardes, je pense que c'est comme ça qu'un être humain normalement constitué aurait réagi.
Francis se promène avec le cadavre d'un illustre inconnu sur le siège de passager de son Jeep. Puis là, son frère Marco, joué par Michel Charette, appelle son frère suicidaire. Fait qu'il se rend chez Marco. Puis là, Marco qui attend, assis sur son divan avec un gun sur la tempe, puis qui mange.
Ouais. Ah oui, il se pogne un pâté chinois. T'sais, il est comme ça, puis il prend un pâté chinois.
Il mange. Là, il y a du bruit à l'étage au-dessus. Puis lui, il cogne avec son balai, puis il est comme « Baissez votre TV! On s'entend plus se suicider! »
Mais tu sais, on parlait de personnages qu'il y a trop dans ce film-là. Tu sais, j'adore Michel Charette dans
Moi
là,
aussi.
Mais ce personnage-là aurait pu être enlevé.
Ouais.
Et on aurait eu la même histoire pareil.
Ouais, on dirait qu'on voulait rajouter un comic relief.
En fait, moi, je pense que c'est plus un love interest, moi.
Ouais, bon, il reviendra, mais je trouve ça bizarre.
Non, non, le Love Interest m'a plus intéressé que le Comic Relief qu'il apportait.
Ouais. Non, parce que le film n'a pas besoin de Comic Relief parce que tous les personnages sont connus. Non,
sans, ouais, t'as raison.
T'as raison des Comic Relief. Puis, Anto, tu parlais du cadavre dans le char. Je suis sûr que. Moi, j'étais convaincu que c'était Jean-Marie Corbeil. C'est pas lui.
Non, c'est pas lui.
Mais il y a des angles. Il sortait la tête dans la main.
Si ça avait été lui, je le saurais.
Je suis Pedro, le lutin!
Fait que Francis puis Marcos, j'allais dire Marjo. Francis ou Marco se sauvent en voiture. Puis là, Francis, il est plus capable de son frère Marco. Puis il dit, quand tu veux pas te suicider, tu veux te pendre. Moi, ça, ouais. ça me fait rire.
C'est un truc très drôle aussi.
Je vais faire un Joël, je vais revenir. Ah, juste avant ça, il y a un beau gros camion de Monsieur Net qui arrive dans le plan avant qu'il s'en aille. Puis c'est vraiment comme zéro subtil, c'est quasiment en paix que la Bad Blue au début. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà.
Puis le pire, je l'avais même pas remarqué sur le coup, puis pourtant, ça prend comme tout l'écran à peu près.
Ah, puis quand ils partent en char, tu vois là, encore là, dans le cadrage, tu vois la vanne au complet, Monsieur Net.
Oui.
Calvaire.
Fait que pendant ce temps-là, chez Boiteuse, il y a le personnage de Roxane qui essaie de sauver, qui demande à aller aux toilettes parce qu'elle a des besoins de femme. Puis là, Boiteuse répond.
Maudis-moi. Pas capable de dire non à une femme. C'est ça mon gros problème. Je suis trop sensible.
Ça, c'est vrai. Regarde Flipper puis il broille.
Ah, ta gueule, elle va me prendre pour une moumoune.
Pas tout.
Fait que Roxane va aux toilettes, tente de s'enfuir, Bing tire partout. Ce à quoi Boiteuse va ajouter.
Toi, mon espèce de fin de race. Des fois, ça m'aidera à cresciter ta mort. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est chaud.
Enlève-les!
Il y a cette scène-là où Bing se met un gun dans la culotte que j'ai trouvé drôle, mais c'est suivi, puis là, je l'ai noté avec des points pour ponctuer ma phrase comme du monde, par l'hostie de scène de Headbang en char. On dirait qu'il y a toujours ça dans les comédies, un moment où les personnages sont en crise l'un après l'autre, mais la musique... les rapproche.
J'ai écrit la scène Wayne's World.
Ben oui, la scène Wayne's World, ouais, totalement. Ou la scène, moi je reviens souvent avec Harold et Kumar, mais il y a cette scène-là aussi dans Harold et Kumar où les gars se mettent à chanter comme timidement, puis deux secondes plus tard, sont à fond la caisse dans tout.
Ouais.
Dans Grind, qui est le premier DVD que je me suis acheté, ils chantent une tonne de Poison ensemble dans leur minifan.
C'est quasiment un cliché.
Oh, oui, vraiment.
Ouais.
C'est vraiment un cliché, ça. Là, il y a le propriétaire du resto chez Allaire qui passe pour sa run de lait avec son petit truc de lait.
Oui, ok, je le replace. Là.
Tu vas enlever ton tablier et tu vas t'en aller. Hmm? T'as bien compris, c'est fini. Va-t'en, t'as assez fait tout de.
Boiteuse vole le troc de lait. Là, il y a un accident entre Roxane qui s'est sauvée avec la vanne des méchants et nos deux tueurs à gages. Les tueurs à gages sortent du char et le airbag fait exploser le char. Ça, moi, je suis pas un fin connaisseur en mécanique, mais je suis pas mal certain qu'un airbag, ça fait pas exploser un char.
Puis ça, je te dirais que c'est la joke qui m'a plus fait rire du film. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas ça si je riais. C'est à cause que le film est drôle, c'est parce que c'est tellement nowhere. Ça sort de nulle part. Le petit airbag en cartoon, comme une espèce d'animation qui pop. Puis ça explose. Puis c'est que, what the fuck? Pourquoi ça explose dans
le monde? C'est un cliché de film d'action, là, tu sais.
Ben oui.
Un véhicule qui rentre dans un bloc de ciment, puis ça explose comme ça n'a pas de sens.
Ah ouais.
Francis qui en est à son troisième rendez-vous, parce que les deux premiers ont été ratés, peut-être j'ai pas été clair là-dessus, mais son troisième rendez-vous avec Boiteuse et Bing et Rachel et supposément Roxane. Et là, il n'y a plus de verre de contact, fait qu'il se rend pas compte qu'il s'adresse à une Roxane en carton. Et puis que c'est Rachel qui chante à la place. Au moment en fait où Rachel se met à chanter pour faire comme si Roxane était là, je pense que Francis comprend. Et se sauve. Il y a la cascade Lavanne. Très intéressant, encore une fois,
d'entendre
Stéphane Lefebvre raconter ça dans ton podcast. le balado des dangereux.
Oui,
ceux qui avaient commencé à écouter notre épisode deux heures plus tard. Là. Boiteuse, Bing, Rachel tiennent Marco en otage. Bing tire sur Rachel par accident en essayant de tirer sur, sur Francis. Marco crie. Cette scène-là, c'est un peu un crise de messe. Là. Il y a du bruit, il y a une affaire épouvantable.
D'ailleurs, toute cette scène-là, si je peux faire encore du pouce sur mon
balado, oui,
à l'époque, ils voulaient, dans le fond, la scène finale qui s'est passée finalement à la Marina d'Oka, au départ, ont voulu le faire à la ronde parce que dans leur plan initial, ils voulaient qu'on voit Montréal le plus possible parce qu'ils trouvaient que dans les films, on voit pas les gros attraits de Montréal. Et là, ils ont voulu avoir la ronde de Six Flags. Je sais pas si c'était eux à l'époque ou... Peu importe qui avait la ronde à l'époque, ont refusé qu'il tourne là, donc ils ont dû se rabattre à la Marina d'Oka.
C'est triste parce qu'une scène d'action dans un parc d'attractions, ça le fait en
mode. Eh ouais, c'est
ça aurait été écœurant, là.
Marco, Francis, Roxane vont embarquer Rachel avec eux. Et là, ils vont essayer de se rendre au spectacle, mais en route, ils vont voir Boiteuse et Bing arrêter dans une station-service. Fait que Rachel sort en boitant et va crisser le feu à Boiteuse. Fait que c'est là qu'il y a une torche humaine. Ouais. Je pense que tu sais quand les critiques parlaient d'ultra-violence, peut-être que cette scène-là, on pourrait la qualifier d'ultra-violence.
Ouais. Oui, le mec est en feu, là, tu sais.
Ouais, ouais, c'est brutal, hein? C'est comme elle se venge pas à peu près. Là. Exactement. Et là, Bing sort du dépanneur, veut tirer sur Roxane qui va chercher le sac de cash dans le troc de lait. Et Francis fonce sur Bing en auto.
Ouais, puis il revole.
Il revole, ouais. Il revole d'aplomb. Il revole comme un personnage de GTA Vice City. Là, comme oh.
Hey, puis j'ai pas le choix de faire un Joël, Anto.
Ah oui, vas-y.
Quand Boiteuse puis Bing, ils partent avec le cash en char,
oui.
Boiteuse qui dit « J'en reviens pas qu'on a le cash », puis Bing, il dit « Puis en plus, on a des fudges aussi, parce que c'est un truc de traîneur
à glace. » Fait que Bing se réveille dans l'ambulance et il est furieux, puis il retourne le booster de l'ambulancier sur la tête de l'ambulancier.
Ouais. L'ambulancier qui sonne comme Claude Legault, mais que c'est pas lui.
C'est François-Étienne Paré?
Oui, oui, oui.
Oui, c'est lui, hein? Moi, je sais pas.
Un joueur de la LNI assez connu.
Ah, OK. Moi, j'ai pas replacé, mais c'est pas Claude Legault.
La revanche des nerds aussi. Hein.
Oui, exact. Ouais.
Okay. Oui, c'est vrai.
C'est en plein, ça. Fait qu'on arrive à l'aréna, là. On est pas mal les deux pieds dans le troisième acte. Gang, petite bloc de Pringles on the side.
Et de Dassani aussi.
Il y a Paul qui invite Marco à piger dans le catering, puis il dit « Tu vas aimer ça, toi, vu qu'il est gros. »
Puis il y a des cages de Dassani dans le fond.
Il sert de commanditaire, là. Il se pogne en Gatorade, des Pringles. Il y a des caisses de Bounty. Il y a des Bounty en dessous de la table.
Puis des Dassani.
Dassani aussi à côté.
À grand coup de placement de produits.
Pringles, quand on croque, on craque.
Là, on voit Dirty Henry qui dit à Locke Fou, tu livres-tu ça à Rive-Sud, toi? Parce que les autres, ils se rencontrent dans l'aréna, mais ils savent pas qui est qui. Puis là, c'est la rencontre de tous les méchants, si tu veux, là, qui ont chacun comme leur side quest dans le film, qui se rencontrent dans l'aréna. Puis je trouve ça cool quand même, comment ils ont rappé ça, parce que je le disais plus tôt, mais quand on parle d'un mauvais film, c'est souvent le contraire. Fait que c'est un peu pour ça que pour moi, c'est pas un si mauvais film. Mais je trouve qu'ils ont quand même réussi à boucler tout ça relativement bien à la fin. Et puis on va poursuivre dans cette lancée-là. Il y a Tiger qui spot Marco en train de dévoiler le secret des parents de Roxane, parce que là, on se rend compte que les parents de Roxane sont de mèche avec ce kidnapping-là. Marco entend ça, il pointe son cellulaire, Tu sais, un cellulaire, quand tu parles dedans, ça sonne le cul, mais lui, il est comme à 35 pieds des méchants, puis Francis, à l'autre bout, il comprend tout très clairement.
Et t'es un grand francophone québécois.
On voit Roxane sur scène qui dit « Salut Montréal, ça va? » Puis là, Subway, la batte bleue, il y a des plugs, là, on y va par là. Puis encore une fois, le setup d'une vedette internationale qui a l'air du festival de la Gibelotte de je sais pas quelle ville, encore une fois, là. C'est vraiment des setups franchement ordinaires. Il y a plus d'éclairage sur les affiches de la batte bleue qu'il y en a sur elle, je pense. Puis là, on voit Francis qui balance de la smoke sur les tueurs à gages qui se sauvent avec le sac de cash. Ça scène, dans chaque coulisse, il y a quelqu'un qui veut s'en prendre à Francis, qui veut le cash. Et Francis se pitch dans la foule. Et ça, c'est copié-collé du film New York Minute avec les jumelles Olsen.
Le jeu au Game Boy des jumelles Olsen, ça a l'air qu'il est excellent.
Ben non!
C'est nowhere de même. Ouais, il y a un jeu des espèces de jeux de puzzle, je pense, là. Des jumelles Olsen au Game Boy, puis c'est comme, bah, c'est bon.
Ça achève, là. Il y a une couple de petits plans vraiment nice, notamment Tiger, le personnage de Didi Lucien qui se fait traverser par un lance-flamme.
Hey, c'est-tu lettre, ça? Ben, pas que c'est pas si raté que ça comme effet, mais c'est juste, ça fait aucun sens.
Mm. Encore là, je te rappelle que le gars des effets spéciaux a travaillé sur les derniers Star Wars.
Je sais, c'est juste que un jet de flamme, en fait, c'est un cartoon encore, tu sais, c'est...
Ouais.
Dans, physiquement, ça ferait pas ça, il ferait juste pogner en feu au pire, mais ça passe à travers un beau, tu sais, un beau rond, là.
Et là, plot twist, on comprend que la mère était de mèche dans tout ce beau projet, puis que c'est ça, c'est à cause de Louise Portal que Roxane s'est fait kidnapper.
Hey, t'es une belle écœurante, toi, faire ça à ta propre fille, ton propre sang. Garde la peine que tu fais à ta petite fille, là.
Je veux pas péter votre balloune, là, mais pour consoler votre fille, là, pourquoi vous y racontez pas comment vous avez volé l'argent de son compte de banque, payer vos dettes de jeu? Ou encore comment vous aviez planifié de me faire descendre par vos deux tueurs à gages, après que j'avais tout compris. Didi!
J'étais ça, les petits renforts! Aussi, papa.
Et là, on passe rapidement au mariage de Marco et Rachel. Fait que tantôt, Jean-Gab, quand tu disais que c'était plus pour le love interest que pour... je pense que je suis assez d'accord avec toi.
Mais à quel moment, j'ai-tu manqué un bout dessus, mais à quel moment que ces deux-là se sont matchés?
Dans le char.
Oui, Rachel, tu sais, quand elle se fait tirer une balle, puis que là, dans le fond, Francis décide de la ramener dans le char, là, il commence à se parler là. Puis quand que Rachel va faire flamber Boiteuse, il va dire comme, tu sais, elle a du caractère.
Ouais, hey, elle est maline.
Elle est maline, c'est ça. Puis okay. Il hook. Puis tu sais, quand que à la fin, juste avant le mariage, tu vois qu'elle se fait embarquer par la police, il fait comme un speech au travers de la fenêtre là, pour dire qu'on va se revoir, tu sais. Puis après ça.
Je pense, c'est le moment du film que j'étais vraiment écœuré, que je trouvais trop long. Puis je pense que j'étais dans l'une. Puis j'écrivais en tour sur Messenger.
Les gars, je sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, moi, je me suis toujours posé la question. Tu sais, quand on est à la scène du mariage, Véro porte du blanc. Stéphane Rousseau porte du noir. Est-ce que c'est un double mariage ou c'est seulement...
Je sais pas, mais ils se sont comme matchés, eux autres. Parce que Marco essaie d'embrasser Roxane, Francis est comme « wow, wow, wow ».
C'est ça.
Il y a une relation là qui s'est développée.
C'est pas clair, même si...
Parce qu'une bridesmaid, ça s'habille pas en blanc. Fait que dans ma tête, je me dis « c'est clair que c'est un double wedding, mais je l'ai jamais vraiment su ». Fait que c'est mon
sens. C'est une belle théorie, ça.
Intéressant. Mais c'est pas normal qu'on se pose la question, tu sais.
Ça devrait être. Ben,
c'est précipité, cette dernière scène-là. Là.
Ouais, c'est ça.
Ils vont aller prendre la photo sur le perron de l'église à la fin du mariage. Le photographe, on reconnaît un peu la voix, puis une main, puis le jacket. Puis c'est Bing qui tire du gun, qui réussit à tirer sur personne, sauf dans l'écran. Il y a des trous de balles dans l'écran.
Ouais, c'est. Ça finit de même, c'est bien bizarre. Ouais.
Deux choses à dire, je vais backer un peu. Première chose, vous regarderez, si vous réécoutez cet extrait-là, juste avant qu'il tire du gun, il y a une fille qui se bouche les oreilles. Une petite fille qui se bouche les oreilles juste avant. Et deuxièmement, vous écouterez la voix de Bing et il imite clairement Jean Chrétien.
OK, on me fait votre plus beau sourire. Cheese, tout le monde!
Ouais, ça, je le savais parce que je l'écoutais dans ton balado.
Ça, ouais.
ça fait combien de fois qu'on te plug, là, mais.
Ouais. Autant que la batte bleue dans le film, je pense.
Ouais, c'est ça.
Il y a un truc dont j'ai pas parlé qui me fait bien rire. Je connais un gars qui a parti un socio-financement pour que la toune des dangereux devienne une toune disponible d'un karaoké. Et puis qui a été chanter la dite chanson avec Véronique Cloutier, preuve vidéo à l'appui.
Ben voyons.
Tu veux-tu nous parler de ça, Marc-André?
Ah ben oui, je peux t'en parler avec plaisir. Puis toute cette anecdote-là est fucked up. J'étais au Saguenay, je m'emmerdais. Puis j'étais comme, hey, je vais regarder combien ça coûte faire la toune des dangereux au karaoké. Puis j'étais allé m'informer sur des sites. Puis ça coûtait 130$ avec back vocals, 100$ sans back vocals. Et là, j'étais comme, j'ai lancé une publication sur Facebook. J'ai dit, hey, la toune des dangereux, ça coûte ça, c'est bien trop cher. Puis il y a quelqu'un qui dit, porte-toi un socio-financement. Fait que là, j'étais comme, je suis au Saguenay, je m'emmerde, c'est sûr que je le fais. Fait que j'étais chez mes parents. Fait que je pars ça, puis dès le lendemain, les médias ont comme pris l'affaire d'assaut. Je dis que, tu sais, genre, il y a eu Petit Gamin, il y a eu Journal de Montréal. Puis Journal de Montréal, on quasiment fait plein de follow-up là-dessus, c'était incroyable. Là. Puis à un moment donné, je commence mon année comme prof, puis je reçois un DM sur Facebook. De la productrice, je pense, de Véronique, elle est fantastique. Parce que moi, j'ai lancé un cri du cœur au Journal de Montréal pour dire que je voulais la chanter. Et on me dit, ça te tenterait-tu d'aller la chanter live en plein trafic? Et là, je suis comme, what the fuck?
Ferme la porte, jette les clés. Tu peux essayer de m'emprisonner trop forte. Tu pourras pas me garder. Je ne suis pas morte, j'ai les poings serrés. À la moindre occasion, je vais me libérer. Il faut que je sorte, je ne peux être enchaîné. Wow, quand je m'endors,
hey, bonne ta trame.
Je n'arrive même plus à rêver dans le même décor. Je n'arrive même à respirer. Si vous pouvez m'entendre, alors criez.
Tout le monde dans le trafic.
On va ouvrir le feu.
On tape dans les mains.
Réveiller les diables et les dieux. Faire brûler la nuit dans nos yeux.
Tout le monde.
On va nourrir le feu.
Tout le monde est comme, qu'est-ce que c'est ça?
Rallumer l'enfer et les cieux. C'est la balade des dangereux. Oh, c'est la balade des dangereux,
oh, on a même la finale,
des dangereux.
Allez Marc-André, à toi.
C'est la balade des dangereux.
Merci le Québec. Wow. On vient de vivre un beau moment. C'est vrai, hein? Tout le monde ici, on vient de vivre un beau moment.
J'ai la chair de poule. Un beau moment. Hey, pour vrai, c'était vrai. C'était vraiment le fun. Hein?
À quand la suite? À quand la suite?
Ah ben, là, calme-toi. Ah, oui,
je pense qu'elle aurait été faite. Ah, oui, c'est ça.
Et elle, d'ailleurs, l'a chanté à son tour dans un karaoké lors d'un party Rouge FM.
Ah, elle l'a chanté en ouverture d'un gala Comédia aussi?
Oui, aussi. Puis elle a chanté aussi pour Julien Lacroix à première fois.
Ah, OK, je savais pas.
Parce que c'est une de ses tunes préférées à Julien Lacroix, ça a l'air.
ça me fait penser à la track de karaoké, la tune karaoké, c'est-tu ça qu'on entend dans ton jingle? Balado?
Non. Ça, c'est. Dans le fond, c'est Dominique Hamel qui me fait ça. C'est, j'ai écrit les paroles. Je trouvais ça bien drôle de plugger le Pepsi bleu. Ça ouais, me faisait bien rire. Ouais.
On sort de 2002. Un film québécois peu fameux. Puis on parle aux gens qui étaient dedans. On retourne en 2002. L'année où il y avait le Pepsi bleu.
Dominique Hamel, c'est comme un ami à moi qui était musicien quand j'animais des soirées d'impro au Café Campus à Montréal. D'ailleurs, fun fact que j'ai oublié de dire, puis je l'ai dit nulle part, à un moment donné, j'anime, puis je me suis dit, je vais faire une animation d'impro où chaque intervention, ce sera des fun facts sur les dangereux. Donc, 12 interventions, 12 fun facts sur le film. Et à la fin, je vous mens pas, il y a un gars qui vient me voir. Et il me dit, j'ai été figurant dans le film, je fais « T'es qui? T'as fait qui dans le film? » Et c'est le petit gars, Hugo Toin-Sylvestre, qui reçoit le chat.
Ah ouais!
C'est toi, tu beau, hein, mon chat?
Ouais.
OK, prends-les, je te le donne. Il s'appelle Tiger.
Ouais, merci.
Ouais. Je la trouve pas drôle, celle-là. Tiger!
Notre façon de noter les films, c'est sur une échelle de 10 à moins 10. 10 est un chef-d'œuvre, mettons Citizen Kane à l'ombre de Shawshank. Et 0, c'est un film oubliable. Pour moi, c'est Battlefield Earth.
It's a joke.
Quelle note tu donnerais au dangereux?
Dans mon cœur, c'est un 10 et plus, là, mais si je vais de façon un peu rationnelle, on serait dans le moins 5, moins 6. Là.
Okay.
Ouais, parce que je trouve qu'il y a un bon potentiel de blagues et de plaisir. Puis plus tu l'écoutes, plus tu te rends compte de l'absurdité du scénario. Puis il prend vraiment plusieurs degrés au fur et à mesure que tu l'écoutes. Puis tu l'écoutes, je l'ai écouté vraiment un peu, mettons, en 2011. Puis je le réécoute aujourd'hui, puis il y a plein d'affaires que je suis comme, j'avais pas saisi ça à cette époque-là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des gags qui tombent plat, on se le cachera pas. Il y a de la direction d'acteur qui est rarement manquante.
Toi aussi, papa?
Mais j'ai beaucoup de plaisir sur certains gags, puis des fois, j'ai l'impression d'écouter, de me rappeler Les Voisins, là, tu sais, le téléfilm Les Voisins, là.
Ouais.
Puis c'est pour ça que, pour moi, ça irait dans ces notes-là.
Fait que ça serait dans les moins.
Ouais.
OK, parfait. C'est bon. Joël?
Jean-Gab, vas-y donc.
Non, je veux que Joël, tu veux que tu y ailles. Hein.
Ouais, moi, je veux que Joël y aille.
Moi, pour vrai, j'hésite vraiment entre le positif ou le négatif. Parce que plutôt aujourd'hui, moi, puis moi, c'est obstiné. Ça a été dans le positif, dans le négatif. Mais je pense que toi, Anto, tu y vois plus de qualité que moi.
Ouais.
Puis je pense que je vais aller dans le négatif parce que si je le réécoute, ce film-là, ça reste pour en rire. C'est pas pour dire « Ah, c'est un peu bon », tu sais, c'est plus pour rire des défauts, tu sais.
Ouais.
Ouais, fait que je vais peut-être y aller avec moins 5 parce que tu sais, c'est pas si incompétent que ça. Ça, c'est clair. Il y a des choses réussies dans le film, mais c'est juste pour constater l'échec, tu sais, ça reste que ça n'a pas marché. Je veux dire, il y a plein de monde, je pense que c'est ça quand tu m'avais dit, là, off the record, c'est plein de monde compétent ensemble qui font chacun leur truc, mais qui se parlent pas, on dirait.
Moi, ce que je t'ai dit, c'est que j'avais deux choses. J'avais l'impression que c'était un paquet d'artisans et d'artistes très talentueux qui étaient juste pas tout à fait en phase ou qui travaillaient, on dirait qu'ils travaillaient pas exactement sur un même projet. Puis je t'avais ramené aussi une analogie qu'un prof de musique à moi m'avait faite, qui m'a marqué, qui disait on montait un band pour le show de fin de session, puis tout le monde se pétait des petites passes, même moi qui étais à la basse. Puis il avait dit à un moment donné, tu sais, quand tu fais un gâteau, le crémage c'est essentiel, mais quand il y en a trop, c'est pas mangeable. C'était juste pour expliquer que des fois, tu sais, de pas trop beurre épais ou d'y aller avec parcimonie, ça rend la chose encore mieux. Puis tu vois, avec les dangereux, je trouvais que c'était ça. Tu sais, t'avais Stéphane Rousseau avec le gros chapeau qui se tape la tête d'un case avec des grosses en effet cartoony. Et tu sais, on dirait que tout le monde se pète un trip chacun de leur bord.
Ouais.
Puis ça manquait peut-être un petit peu de...
Je veux pas mettre le blâme sur personne, mais mettons, tu sais, ouais. Louis Saya, c'est un peu sa job là, d'encadrer tout ça. Fait que je sais pas s'il y avait peut-être un peu plus encadrer les acteurs, même le directeur photo, on en a parlé tantôt, le directeur photo qui se laisse aller puis fait des plans. Pas des mauvais plans, c'est juste que des fois ça.
Ah, il se pète un trip.
Il y a un gros problème de ton, je veux dire, dans le montage, dans la direction photo, puis surtout dans l'histoire, dans les jokes aussi, le clash de la violence avec les bouts de cartoony, fait que c'est raté en général, mais est-ce que c'est le pire film québécois? Non, c'est beaucoup moins pire qu'Angelo Fredo Romeo.
Jean-Gab, c'est quoi ta note?
Ouais, c'est ça, ben on a joué à un jeu tantôt, Anto a écrit la note qu'il pense que je vais dire sur le film. Je suis assez d'accord avec ce que Joël a dit, mais je considère pas que ce film-là est un échec. Je pense que, quand en l'écoutant, il a pas super bien vieilli avec certaines jokes. Je pense que c'était une comédie qui était correcte. Moi, le ton de l'extrême violence avec la comédie, moi, ça me fait vraiment rire. Fait que moi, je trouve pas que c'est un clash. Moi, je trouve que ça marche. T'sais, on pense à des Kick-Ass, à des Deadpool, que c'est 100% ça, puis ça marche. Je vais donner une note positive. C'est peut-être une note qui est un peu gonflée, juste pour essayer de donner goût aux gens de l'écouter, en fait, le film, parce que je pense que même quand moi, je l'avais écouté, quand la critique était vraiment dégueulasse, j'étais sorti du film, j'avais fait comme... Mais ouais, non, moi, je me sens que j'ai eu une belle ride, tu sais. Je veux dire, sans dire, le film est pas parfait, mais j'avais vraiment aimé ça. Pour toutes ces raisons-là, je vais donner un 7.
Hé, là là!
Wow!
T'as écrit un 7?
Ça, c'est plus que la note de passage. Ça veut dire que c'est un film que tu réécouterais régulièrement,
oui.
Là.
Oui.
Pour moi, ce film-là, c'est dans le positif, puis c'est un 3. C'est pas... Comme je disais à Joël, plutôt, c'est pas quelque chose que je vais réécouter pour m'en moquer tant que ça. Je vais le réécouter pour ses qualités, c'est-à-dire son beat, son audace, des belles cascades, des belles scènes. Il y a quand même de l'action, le fun là-dedans. J'ai bien aimé Pierre Lebeau, j'ai bien aimé Didier Lucien, j'ai bien aimé Miro. J'ai correct aimé Marc Messier, mettons que c'est pas ma performance préférée de Marc Messier, ni de Guy Nadon, qui sont des comédiens que j'aime beaucoup.
Y a rien de pire que d'être bandé sans pouvoir se soulager.
Pour moi, c'est dans le positif, puis c'est un 3. Voilà tout.
Cool, moi, c'est sûr, je me retape le film. Après, quand j'aurai fini d'écouter toute la balado des dangereux, je vais me le reclencher en langue étrangère, puis même le réécouter en français, sachant plus d'infos encore, on dirait que ça va...
Puis si je pouvais aussi, les gens qui... Moi, quand je parle des dangereux aux gens, l'affaire qui me revient le plus, puis j'en parle dans mon balado, c'est dès le départ, les gens font comme « Arc, c'est le pire film de l'univers. » Puis là, tu leur demandes, tu vous ferez le test, là. Vous leur demandez « Avez-vous vu le film? » 75% des gens vont vous dire « Non, je l'ai pas vu. »
Mm-hmm.
Fait que ça, comme c'est un blocage déjà en partant. Puis moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ce film-là est pas devenu culte. Tu sais, culte dans le sens de il y a pas eu un cult following des années plus tard. Puis parce qu'il y a tout ce qu'il faut, là. Tu sais, il y a tout ce qu'il faut. Tu sais, mettons, moi, s'il y avait un genre de un movie con au Québec, c'est clair que je me déguiserais en Michel Charrette, là.
Mais il est pas culte parce qu'on attend que tu organises le screening interactif des dangereux. On va aller lancer des Pringles dans l'écran.
Mais il faudrait qu'il y ait une version 4K, d'ailleurs, de ce film-là. Il faudrait qu'il y ait un remaster, sincèrement, là.
Ça serait quand même un screening interactif. À la fin, tout le monde chante la toune à tue-tête. Ça serait malade.
Ouais, que je vois que comment tu parles les objets.
Non, ouais. Ça serait même... Pas toi aussi, papa, une salle au complet. Ouais. Ça serait parfait.
Un lighter. Ow! Ow!
vous remercie encore, Marc-André, d'avoir fait ça avec nous. C'est vraiment apprécié. Les gens à maison, au bureau, en voiture, allez écouter le balado des dangereux. On en a parlé plusieurs fois. Ça paraît très précis comme sujet, mais pour vrai, vous n'avez pas besoin d'avoir écouté le film dans les derniers jours pour apprécier. C'est vraiment le fun. Fait que tous les geeks de cinéma, les aspirants cinéastes, c'est pour vous. T'sais, ça parle de coulisses, de l'industrie, puis c'est vraiment plaisant. Marc-André pose les bonnes questions. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Quasiment un peu triste d'avoir fini les épisodes, en fait. J'espère. Je pense que moi, travailler pour toi, Marc-André, je vais essayer de t'envoyer du monde pour que ça continue puis que je puisse écouter d'autres épisodes de la balado des dangereux, parce que j'ai vraiment trippé. Si vous aimez ce qu'on fait, parlez de nous à vos amis. Merci encore à la microbrasserie Les Grands Bois.
La batte.
De la Les Grands Bois, le focus va se placer dessus. Hein, et voilà. Les Grands Bois, microbrasserie à Saint-Casimir qui nous supporte depuis là, quelques mois et c'est toujours aussi apprécié. Merci à Cuisinic aussi pour le support bien apprécié. Suivez-nous sur Facebook, YouTube en vidéo, sur n'importe quelle plateforme en audio. Puis si vous ne nous trouvez pas, honnêtement, Google, on a un nom assez atypique. C'est pas long à tomber sur nous. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.
Spoilers, si jamais je viens à bout des dangereux, c'est clair que ma suite, c'est Angelo, Fredo et Balado. Ah, là. C'est sûr, ouais. Sûr, sûr.
Nice.
C'est
sûr, c'est ouais. Sûr. On va t'en
faire pas en parler, je voulais pas.
Ah aller, oui, mais justement, mais là, je l'ai calé là. Fait que si quelqu'un me copie le concept, copyright infringement, Ben.
Ah, on va être trois à le talonner pour faire comme c'est pas à toi, cette idée-là.
Ouais, c'est ça.
Ah, mais honnêtement, idée, qui voudrait faire ça?
Moi.